de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravie de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le bilan des morts de la guerre a atteint 32 705 personnes. Les experts de l'industrie du plastique garantissent la sécurité des emballages des produits d'eau potable en bouteille. L'ONU déclare que 4 soldats de la paix ont été blessés dans une explosion au Liban. Le 74e Journée nationale du cinéma porte le thème des films variés de nombreux spectateurs. Le ministre de la Main-d'œuvre a fait part de son engagement à accroître la protection des travailleurs migrants indonésiens en Arabie Saoudite. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré samedi qu'au moins 32 705 personnes avaient été tuées sur le territoire pendant plus de 5 mois de guerre entre Israël et les militants palestiniens. Ce chiffre inclut au moins 82 personnes tuées au cours des dernières 24 heures, a indiqué un communiqué du ministère, ajoutant que 75 190 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre lorsque les militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre. Wiyuwa Hono, expert de l'industrie du plastique, garantit que l'emballage utilisé pour les produits d'eau potable en bouteille en Indonésie peut être utilisé sans danger comme contenant de consommation. Dans sa déclaration écrite à Solo, Java Central, samedi, Wiyu a déclaré qu'il existe actuellement de nombreux produits d'eau potable en bouteille qui proposent de l'eau dans différents emballages, tels que des gobelets en polypropylène ou en plastique, des galons réutilisables en polycarbonate ou bleu et du polyéthylène terephthalate. Il a déclaré que les galons polycarbonate ont été choisis comme emballage les produits d'eau potable en bouteille car ils peuvent être utilisés à plusieurs reprises. Selon lui, ces trois emballages sont couramment utilisés par les producteurs des produits d'eau potable en bouteille car ils utilisent un matériau plastique sans danger pour les biens de consommation. Selon lui, il faut beaucoup de consommation d'eau exposée aux substances qui composent les plastiques d'eau potable pour avoir un impact sur la santé du corps. Des consultants industriels allemands ont déclaré que cette question était devenue la préoccupation de toutes les agences mondiales de santé et qu'elles avaient donc fixé un seuil de sécurité. Dans le même temps, a-t-il déclaré, les emballages et les produits d'eau potable en Indonésie sont conformes au règlement numéro 86 de 2019 de l'Agence de surveillance des aliments et des médicaments, ou BPOM, concernant la sécurité alimentaire et au règlement BPOM numéro 20 de 2019 concernant l'emballage alimentaire. L'ONU a déclaré que 4 de ses observateurs militaires avaient été blessés samedi lorsqu'un obus a explosé près d'eux à Liban du Sud, où Israël et le mouvement Hezbollah mènent des attaques transfrontalières. L'Organisation des Nations Unies chargée de surveiller la trêve, ou ONUST, n'a pas identifié la source de la fusillade, mais l'Agence de presse nationale libanaise a imputé la responsabilité à Israël. Dans un communiqué, l'ONUST a déclaré que le fait de prendre pour cible les soldats de maintien de la paix était inacceptable, ajoutant que la victime avait été transportée à l'hôpital pour y être soignée et qu'une enquête était en cours pour déterminer l'origine de l'explosion. L'ONUST a appelé toutes les parties à cesser les échanges de tirs à grande échelle et a déclaré que tous les acteurs ont la responsabilité, en vertu du droit international humanitaire, d'éviter de prendre pour cible des non-combattants, notamment les soldats de maintien de la paix, les journalistes, le personnel médical et les civils. Le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, par l'intermédiaire de la Direction générale de la Culture, organise une commémoration de la 74e Journée nationale du cinéma qui tombe le 30 mars sur le thème des films divers de nombreux téléspectateurs. Le ministre de l'Éducation et de la Culture, Nadim Makarim, a exprimé sa fierté de constater la renaissance actuelle du monde cinématographique indonésien. Il estime que la qualité des films indonésiens continue d'augmenter et que les thèmes abordés dans les films indonésiens sont également de plus en plus diversifiés. Dans une déclaration écrite samedi à Jakarta, Nadim a déclaré que cette condition avait accru la confiance du public dans le travail des enfants du pays et dans l'industrie cinématographique indonésienne. Par ailleurs, le directeur général de la culture au ministère de l'Éducation et de la Culture, Hilmar Farid, a révélé que le gouvernement s'efforcera toujours de faciliter de manière optimale le secteur culturel pour renforcer, faire progresser et maintenir l'écosystème, dont l'industrie cinématographique. Selon lui, une série d'efforts inclusifs et durables ont été déployés pour atteindre cet objectif, de sorte que l'on espère que les films indonésiens pourront devenir la base de la construction du caractère national et une source d'innovation illimitée. La ministre de la Main-d'œuvre, Ida Fauzia, a rencontré les travailleurs migrants indonésiens à Jeddah, en Arabie Saoudite, et leur a transmis l'engagement du gouvernement à accroître la protection et le bien-être des travailleurs migrants indonésiens. Dans un communiqué reçu dimanche à Jakarta, Ida Fauzia a déclaré que des efforts avaient été déployés pour accroître la protection et le bien-être des travailleurs migrants indonésiens, notamment dans le contexte de l'expansion des opportunités d'emploi à l'étranger. Il a également souligné le processus de suivi de la mise en œuvre du système SPSK, One Channel Placement System. Il a expliqué que grâce à ce modèle de placement, les personnes qui souhaitent travailler à l'étranger doivent passer par la charia ou par les sociétés de placement en Arabie Saoudite et ne peuvent pas effectuer de placement individuel. Il a également exprimé son engagement à garantir que le programme SPSK soit mis en œuvre conformément aux normes établies afin de protéger les droits et les intérêts des travailleurs migrants indonésiens. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Bonsoir, les auditeurs de Voice of Indonesia. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le gouvernement indonésien concentre son attention sur la lutte contre la dengue ». Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, Lestari Murtiat, a demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour prévenir et traiter les cas de dengue hémorragique afin de protéger le public de la menace de cette maladie. Dans sa déclaration mardi à Jakarta, il a déclaré qu'au début de cette année, la dengue a de nouveau éclaté dans plusieurs régions du pays. Selon lui, la tendance à l'augmentation des cas de dengue commence à devenir visible et à faire des ravages. Il continue également d'encourager la collaboration entre les gouvernements centraux et régionaux pour créer une société qui réagit rapidement aux symptômes, les efforts de prévention et les données précises sur la propagation de la dengue doivent être toujours renforcées. Pendant ce temps, le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a déclaré que les cas de dengue en Indonésie entraînent une charge de morbidité élevée et de plus, la dengue est une maladie à transmission vectorielle, l'approche doit donc être globale. Dans un communiqué publié jeudi, le ministre Budi a déclaré que le taux de mortalité dû aux cas de dengue en Indonésie était relativement élevé au cours des 4 dernières années. En 2021, il y a eu 705 décès, passant à 1236 cas en 2022, puis diminuant à 894 cas en 2023. Au 18 mars 2024, 316 décès ont été enregistrés. C'est pourquoi le ministère de la Santé et la coalition conjointe contre la dengue tentent d'atteindre l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir zéro décès dû à la dengue en 2030. Pour atteindre l'objectif de zéro décès dû à la dengue, le ministère de la Santé dispose de 4 stratégies, à savoir la promotion et la prévention, la surveillance, l'intervention médicale et la thérapeutique. Le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a également ajouté que la méthode de contrôle de la dengue utilisant des moustiques infectés par Wolbachia avait commencé à être déployée dans 5 villes, Bandung, Bontang, Kupang, Jakarta et Semarang. Il a déclaré que pour vaincre la dengue, son parti est l'Université Gadjah Mada, la Fondation Tahiyah et l'Université de Monash ont travaillé ensemble pour innover un programme de contrôle de la dengue utilisant la technologie de moustique Wolbachia pendant environ 10 ans. Wolbachia est une bactérie naturelle, un symbiote couramment trouvé chez les animaux arthropodes avec un mécanisme d'inhibition de la réplication du virus de la dengue joué par Wolbachia. Les résultats de la recherche utilisant le moustique Wolbachia ont permis de réduire le taux d'incidence de la dengue de 77% et de réduire le risque de traitement hospitalier de 86%. Basé sur les considérations, le ministère de la Santé a ensuite adopté la technologie Wolbachia en publiant le décret du ministre de la Santé numéro 1341 de 2022 concernant la mise en œuvre du projet pilote de technologie Wolbachia dans 5 villes. C'est tout la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 31 mars. On commence par le 31 mars 1981, le drame du détournement de l'avion Garuda DC-9 Woyla prend fin. Le 28 mars 1981, un vol de Garuda Indonesia depuis l'aéroport civil de Talang Betutu, Palembang, à l'aéroport de Polonia Medan, a été victime d'un détournement d'avion. L'avion a décollé de Jakarta à 8h du matin et a transité par Palembang. Pendant le vol, l'avion a été détourné par 5 terroristes déguisés en passagers. après avoir atterri temporairement pour faire le plein à l'aéroport de Penang en Malaisie, l'avion a finalement volé et a connu son apogée à l'aéroport Don Mueang de Bangkok en Thaïlande le 31 mars. L'opération de libération planifiée depuis le 28 mai 1981 a été un succès. Le lieutenant-colonel Sintong Panjaitan et 35 personnes ont étudié l'avion DC-9 et la position du pirate de l'air. Les commandos ont réussi à libérer l'avion contenant 48 passagers et 5 membres d'équipage. En 3 minutes, ils ont réussi à paralyser 5 terroristes dirigés par Imran bin Muhammad Zain. Le 31 mars 1991, le pacte de Varsovie prend fin. Le pacte de Varsovie était une alliance militaire des pays du bloc de l'Est en Europe de l'Est visant à s'organiser contre d'éventuelles menaces de l'alliance de l'OTAN. La formation du pacte de Varsovie a été déclenchée par l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN grâce à la ratification du traité de Paris. Le pacte de Varsovie a été rédigé par Nikita Khrushchev en 1955 et signé à Varsovie le 14 mai 1955. En 1990, l'Allemagne de l'Est a quitté le pacte de Varsovie en vue de sa réunification avec l'Allemagne de l'Ouest. Puis la Pologne et la Tchécoslovaquie ont également commencé à manifester leur volonté de se retirer du pacte de Varsovie. En mars 1991, les commandants militaires de l'Union soviétique ont renoncé à leur contrôle sur le pacte de Varsovie. Cet accord a expiré le 31 mars 1991 et a été officiellement conclu lors d'une réunion à Prague le 1er juillet 1991. Le 31 mars 2007, Earth Hour a été célébré pour la première fois. Earth Hour est une activité mondiale organisée chaque année par le Fonds mondial pour la nature le dernier samedi de mars. Cette activité consiste à éteindre les lumières inutiles dans les maisons et les bureaux pendant une heure afin de sensibiliser à la nécessité d'agir sérieusement pour lutter contre le changement climatique. Cette activité initiée par le Fonds mondial pour la nature et Leo Burnett a eu lieu pour la première fois le 31 mars 2007. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat punya dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu. hatiku. Daki pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, bunga gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « L'Indonésie est à l'abri du risque de sanctions de Lama ». L'Organisation indonésienne antidopage, ou IADO, a déclaré qu'actuellement, l'Indonésie est à l'abri du risque potentiel de sanctions de la part de l'Agence mondiale antidopage, ou AMA, une fois que toutes les exigences en matière de mesures correctives sont remplies. Le président général de IADO, Gatot S. Dewa Broto, cité par Antara, a déclaré mardi qu'après l'audit de l'AMA en Indonésie en raison des sanctions répétées, dans un laps de temps relativement court, un audit total était obligatoire. Selon Gatot, finalement, un audit total a été réalisé en mars 2023 par des agents de l'AMA et l'Indonésie a apporté des améliorations dans tous les domaines. Enfin, l'Indonésie a rempli les exigences en matière d'action corrective. Il a déclaré que d'après l'audit, il y avait un certain nombre de points qui devaient être traités comme des mesures correctives, comme l'ajout d'agents chargés de prélever des échantillons pour les tests antidopage, car l'Indonésie possède un vaste territoire. De plus, tous les administrateurs sportifs d'Indonésie sont tenus de signer un accord avec IADO dans le prolongement de l'audit de l'AMA. Gatot a expliqué que même si ce n'était pas encore suffisant, car le score n'avait atteint que 95% dans 65 sports jusqu'au début février 2024, ou n'avait pas encore atteint 100%, cela représentait une conformité avec les résultats de l'audit de l'AMA. Actuellement, IADO continue de fournir une éducation et une formation à tous les sports par étapes afin qu'ils puissent comprendre les réglementations antidopage et le SOP basé sur les réglementations de l'AMA. Le président de IADO, Gatot S. Dewa Broto, a également souligné que 3 athlètes indonésiens avaient obtenu les certificats de la plateforme d'éducation et d'apprentissage, ou abrégé en ADEL, de l'Agence mondiale antidopage, avant de pouvoir participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Il a expliqué que les 3 athlètes venaient du sport de l'escalade, à savoir Desak Madelita Kusuma Dewi et Adi Mulyono, et la gymnaste Rifda Irfana Lutfi. Ils ont reçu un certificat ADEL après avoir suivi une formation et un apprentissage antidopage. Gatot S. Dewabroto a expliqué que l'Indonésie avait reçu des sanctions de Lama au début de 2017 et de 2022, ce qui a empêché les athlètes ayant remporté des championnats dans des compétitions étrangères d'arborer le drapeau rouge et blanc. En dehors de cela, l'Indonésie ne peut pas accueillir des tournois internationaux. C'est tout mon Indonésie.
Sabar yang aku bisa menjadi pengertian, sakit pun selalu ku simpan jadi yang terbaik untukmu. Apa itu tak cukup? Senyum yang ku beri selama ini itu bukan aku. Ku tutupi semuanya agar kita baik-baik saja, tapi kini sudah tak mampu dengan caramu itu. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi,
Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, les résidents qui vivent dans la ville de Malang, Java de l'Est, doivent connaître la collation légendaire Putu Lanang, ou souvent aussi appelée Putu Celakat. Pendant le mois sacré du Ramadan, cette collation sucrée est souvent recherchée comme apéritif pour rompre le jeûne. Le Putu Lanang ou Putu Celakat est une collation légendaire dans la ville de Malang car il existe depuis 1935. poutou est une collation du marché à base de farine de riz, de cassonade et de noix de coco râpées. La cuisson se fait en le passant dans un moule en bambou appelé tube, puis en le faisant cuire à la vapeur pendant environ 3 à 5 minutes. Le poutou lanang amalang a généralement une couleur verte qui provient de feuilles de pandan, ce qui donne au gâteau poutou une odeur parfumée lorsqu'il est cuit à la vapeur. Surtout quand on voit le sucre fondu sortir du poutou lanang, ça a l'air vraiment tentant. Le goût sucré mélangé aux pépites de noix de coco salée vous donnera envie de continuer à en manger. Habituellement, les vendeurs de poutou lanang qui vendent également d'autres collations du marché commencent à vendre leurs produits de 17h30 à 22h et les vendent pour 15 000 roupias pour chaque portion. Chers auditeurs, l'histoire intéressante sur l'origine du nom poutou lanang ou poutou tilaket est qu'au départ, ce pionnier fabricant et vendeur de gâteaux poutou vendait ses gâteaux dans la région de tilaket de la ville de Malang. Puis après que son entreprise se soit développée et a changé de génération, il a changé le nom des gâteaux poutou lanang, car à cette époque, outre de nombreux vendeurs utilisant le même nom, à savoir poutou tilaket, c'est ainsi que le nom poutou lanang est apparu, qui a ensuite été également breveté. En javanais, poutou signifie petit-fils et lanang signifie homme. Bon, chers auditeurs, si vous voyagez à Malang, essayez de goûter ce légendaire gâteau poutou lanang.
Karena kamu aku rela menunggu semua, sungguh berat yang kurasa. Karena kamu aku tetap bertahan meskipun kini engkau dipeluknya. Masih mungkinkah semua abadi seperti dahulu? Karenamu, selalu karenamu ku cemburu.
Semua tentang hatimu.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est Siomai, classé premier meilleur aliment d'Asie du Sud-Est 2024 par Test Atlas. Avec leur délicatesse alléchante et leur goût unique, siomai sont devenus l'un des meilleurs aliments intemporels. En 2024, les siomai conserveront toujours leur titre de l'un des meilleurs aliments d'Asie du Sud-Est que les amateurs de cuisine doivent essayer. Test Atlas a publié la dernière liste de 100 meilleurs aliments d'Asie du Sud-Est au top 100 des aliments d'Asie du Sud-Est. Test Atlas est un média en ligne qui contient une encyclopédie de goût ainsi qu'une liste de plats traditionnels du monde, d'ingrédients locaux et de restaurants authentiques de divers pays du monde. Pour déterminer ce classement, les lecteurs de Test Atlas fourniront une évaluation des aliments du monde entier. Dans cette liste de 100 meilleurs aliments d'Asie du Sud-Est, un total de 15 139 téléspectateurs ont donné leur note jusqu'au 16 mars 2024. Au total, 10 types d'aliments d'Indonésie ont été inclus dans la liste Test Atlas de 100 meilleurs aliments d'Asie du Sud-Est. Siomai est en tête du classement. Sur la liste, il y a 29 aliments indonésiens, 5 de Malaisie, 14 de Thaïlande, 17 de Vietnam, 25 des Philippines, 1 du Laos, 1 du Cambodge, 1 du Myanmar et 7 aliments de Singapour. Le pancit de siomai sont le meilleur plat d'Asie du Sud-Est selon le téléspectateur de Test Atlas en 2024. Cet aliment est un plat indonésien originaire du peuple chinois. Le siomai est fabriqué à partir de pancit cuites à la vapeur, remplies de viande de poisson et additionnées d'œufs, de pommes de terre, de choux, de tofu ou de melon ami. Tous les ingrédients sont ensuite coupés et saupoudrés de sauce aux arachides, de sauce soja sucrée, de sauce chili et d'un peu de jus de citron vert. Outre le siomai, les autres aliments indonésiens figurant sur la liste comprennent le tempeh, le soto betawi et le rawon. C'est tout l'Indonésie en couleur.
Sad. sosok seperti diri.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Cette fois-ci, je vous présente une chanson de G-Rox. G-Rox est un groupe de musique indonésien fondé le 9 novembre 2003 à Jakarta. Ce groupe est du genre pop rock japonais. Les membres du groupe sont Iman Taufik Rahman, Sony Ismail Robayani, Suara Wimayoga et Anton Rudy Kelchas. Après une longue repose, G-Rox a sorti un nouveau single intitulé Tanpa Air Mata en février 2024. En fait, la chanson Tanpa Air Mata a été écrite par Wima avec Alam Urbah en 2022. Dans ce single, G-Rox présente une forte combinaison de leur instrument rock emblématique avec des paroles significatives. Cette chanson reflète les sentiments, expériences et émotions profondes de quelqu'un qui se sent seul et perd son identité. Bon, chers auditeurs, voici G-Rox avec Tanpa Air Mata. Bonne écoute!
Thank you. ku.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Aku mengerti.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.